Radio Marmottin, les élèves de la radio.
Bonjour, je m'appelle Romain, j'ai 10 ans et je vais vous donner le déroulement de l'émission. Nous allons en premier temps écouter l'interview sur la cité des électriciens. Ensuite, nous écouterons des témoignages sur l'école et enfin, nous nous remémorerons des souvenirs sur la télévision. Tout de suite, je laisse la parole à Kimberley et Nicolas qui vont nous présenter de façon plus précise l'interview sur la cité des électriciens.
Bonjour, il y a quelques jours, on a eu Monsieur Donoval, maire adjoint de Bruy-la-Bussière.
Voici son interview.
Bonjour, Monsieur Donoval. Pouvez-vous vous présenter ?
Oui, je m'appelle donc Éric Donoval, je suis maire adjoint de la commune de Bruy-la-Bussière. Maire adjoint, c'est se voir accorder par le maire une délégation. Donc, c'est une manière de travailler en accompagnement du maire. Je me charge des écoles, de l'enseignement, de la formation, mais aussi de la culture dans cette ville. Et puis, je suis aussi un conseiller délégué chargé de la culture à la communauté d'agglomération, qu'on appelle la Cabalère, la communauté d'agglomération de Béthune, Bruay, Artois, Lys, Romane.
De quelle année date la cité des électriciens ?
Alors la cité des électriciens est la plus ancienne cité minière dans le bassin du Nord-Pas-de-Calais. Elle a été construite en 1856, entre 1856 et 1858. Voilà. Ensuite, il y a eu des adjonctions d'éléments dans la cité, puisque vers 1862-63, ont été ajoutés en face de chaque logement ce qu'on appelle les carins, c'est-à-dire des sortes de petites maisonnettes qui étaient au bord du jardin et qui permettaient de ranger là de l'outillage et différents objets.
Pourquoi porte-t-elle ce nom ?
Alors, elle s'appelle Cité des électriciens, c'est absolument pas parce que vivaient là les électriciens qui travaillaient à la mine. Mais ce nom lui a été donné. Elle s'appelait initialement la Cité du numéro 2. Et ensuite, on a donné aux rues des noms. Faraday, Ampère, et ces noms, ce sont des scientifiques célèbres qui ont fait des découvertes dans le domaine de l'électricité à la fin du 19e siècle. Donc c'est la raison pour laquelle on l'appelle la cité des électriciens.
Combien d'habitants ont habité cette cité ?
Alors, au long de l'histoire, depuis 1856, des centaines et des centaines. Cette cité, elle comptait initialement une quarantaine de logements, qui ne sont pas tous de la même taille. Certains étaient plutôt conçus pour un célibataire ou un couple, tandis que d'autres logements, un peu plus spacieux, permettaient d'accueillir une famille de deux ou trois enfants. Voilà. Cette cité, elle a été occupée initialement par des gens qui travaillaient plutôt à la campagne, qui étaient aux travaux des champs, qui étaient des ouvriers agricoles. Et quand on a découvert le charbon à Bruy-la-Bussière, on a eu besoin de cette main-d'œuvre. Alors on a construit des cités pour accueillir les personnes et pour leur donner le confort d'un logement. Voilà. Alors la cité, elle a été occupée encore tout récemment. Il y a 3-4 ans, il y avait encore un couple qui avait passé sa vie entière dans la cité. Le monsieur et la dame sont malheureusement disparu à présent, mais ils avaient plus de 90 ans l'un et l'autre, et ils ont pu habiter la cité jusqu'au début de la rénovation.
En quelle année les derniers habitants ont-ils quitté la cité des électriciens ?
Voilà, je donnais la réponse à l'instant, vers 2012-2013 à peu près. Les derniers occupants devaient être monsieur et madame Morel, si ma mémoire est bonne. Voilà, et naturellement, tout avait été prévu de manière à ce qu'ils puissent terminer leur jour dans leur logement avant que ne débutent les travaux.
Pourquoi avoir décidé de rénover la cité des électriciens et quel est son devenir ?
Alors pourquoi avoir décidé de la rénover ? C'est un projet qui est assez ancien. Moi je suis élu depuis un peu plus de 20 ans dans cette ville et quand je suis arrivé il y a plus de 20 ans, il y avait déjà eu une réflexion qui avait été engagée pour faire en sorte que cette cité puisse continuer à exister. Elle s'est pendant toute une période pas mal dégradée. L'idée de la détruire a même été envisagée à un moment. Mais il faut savoir aujourd'hui que ce bâtiment est classé. Le bassin minier est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est pas rien, ça. Hein, ça veut dire qu'il y a des gens à travers le monde, partout dans le monde, qui savent ce que c'est que l'UNESCO et qui savent aujourd'hui ce que c'est que le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais en France. Et donc, cette cité, elle fait partie des cités minières remarquables, puisqu'elle est la plus ancienne. Elle est remarquable parce qu'elle n'est pas construite comme toutes les autres cités. Comme elle est ancienne, elle a été construite sur des modèles architecturaux qui rappellent quand même les demeures qu'on allait plutôt trouver à la campagne. Hein, il y a quelque chose de rural dans cette cité. Donc on la conserve parce que c'est notre mémoire, parce que c'est votre mémoire, c'est l'histoire de vos arrière-grands-parents, de vos grands-parents, pour un certain nombre d'entre vous, de vos parents. Donc ça, c'est important de pouvoir le conserver. Et alors, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Il faut se souvenir, tout en se tournant vers l'avenir, hein, de ce qu'a été ce territoire avec l'exploitation charbonnière qui est terminée. Et aujourd'hui, nous avons à rendre compte, aux plus jeunes surtout, mais à l'ensemble des populations, de ce qu'a pu être cette période. Alors, il y a des lieux pour parler de l'exploitation charbonnière, on peut visiter le Ward. Il y a la maison des syndicats à Lens, hein, qui va parler de l'activité politique et syndicale dans les mines. Il y a des musées qui parlent aussi de la vie quotidienne du mineur, de l'habitat. Pour la cité, c'est un peu différent. La cité, elle se donne pour mission demain d'expliquer comment les paysages se sont transformés, comment les maisons ont été construites, quels sont les choix d'architecture qui ont été faits et comment l'urbanisme a été réalisé. Alors l'urbanisme, c'est la manière de construire dans une ville pour occuper les terrains, pour penser aux endroits où on va faire passer les rues, les routes, la taille des logements et leur destination. Donc dans la cité des électriciens, à partir de son ouverture, on sera dans ce qu'on appelle un centre d'interprétation. C'est pas exactement un musée, un centre d'interprétation, pour résumer, c'est un lieu pour apprendre à comprendre pourquoi ça s'est fait comme ça, pourquoi les logements se sont créés autour des puits de mine, comment ça a été organisé, comment ça a été orienté, quels sont les choix de matériaux qui ont été faits, voilà, tout ce qui permet de traiter du logement et de découvrir à l'intérieur de la cité, bien sûr, ce qu'était ce logement, mais on ne parle pas à la cité que de la cité, on parle aussi de toutes les constructions minières qui ont été réalisées dans l'ensemble du bassin minier. La cité, ce sera donc un lieu d'exposition, y compris les nouvelles technologies, les jeux interactifs, la documentation, les photos, les livres, tout ce qui permet de comprendre les choses. Ce sera aussi des salles pédagogiques dans lesquelles il y aura des ateliers auxquels les enfants et les plus grands seront invités à participer. Et puis, il y a une chose qui est assez importante dans la cité, ce sont les jardins, hein, puisque on va conserver dans cette cité des jardins qui seront des jardins pédagogiques dans lesquels on apprendra à cultiver. Il y aura aussi des jardins pour les artistes, car la cité va héberger des artistes qui seront en résidence. Ça veut dire qu'un artiste vient passer 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 3 mois dans la cité pour une création artistique. On pourra naturellement accueillir aussi des chercheurs, des sociologues. Et puis la dernière chose, c'est qu'il y aura aussi dans cette cité des gîtes qu'on appelle des gîtes urbains. Alors on sait ce que c'est que les gîtes ruraux, ce sont des endroits où le week-end on peut aller dormir à la campagne. Et bien là, la proposition, c'est auprès des touristes de les inviter à passer une nuit dans une cité minière, une nuit ou deux, et de profiter naturellement des expositions et toute l'activité de la cité.
Nous avons interrogé des gens dans la rue et des parents sur la cité des électriciens, et je vous propose de les écouter.
Est-ce une bonne idée d'avoir rénové la cité des électriciens ?
C'est surtout qu'il faut le garder dans l'état pour l'aspect minier de notre secteur, de notre ville, par rapport à l'histoire de notre secteur.
À quoi va servir cette rénovation ?
J'irais déjà reloger un peu de personnes de notre secteur, et surtout, j'ai toujours l'histoire de notre région en priorité, par rapport au fait qu'ils ont gardé quand même nos bâtiments dans l'origine.
Pourquoi avoir rénové la cité des électriciens ?
Moi, je me dis qu'il y a le gâchis. Maintenant, je suppose qu'il y a forcément une bonne raison. Malheureusement, je ne connais pas encore laquelle. On avait un patrimoine qui était riche, et enfin riche de valeur, mais pas riche pécunier. Et je ne comprends pas qu'on ait pu faire des travaux comme ça. Je ne sais pas à quoi ça sert.
Elle était triste. Elle avait besoin d'être retravaillée et rebâtie. Donc il y a pas mal de choses qui vont être mises en place dans cette cité, comme des gîtes, des restaurations, des maisons, des petits parterres de légumes bio. Donc je pense que c'est un renouveau que la ville a voulu mettre en place pour brûler la Bussière. Maintenant, à voir si dans le temps, ça reste propre et comme ça va l'être à l'ouverture. À voir dans les prochains mois, voire années.
La rénovation, ça sera peut-être pas pour nous, ça sera plus pour les générations futures pour faire connaître le patrimoine.
D'après mon père qui travaille dans une société de bâtiments, ça serait plutôt pour un bâtiment qui va être démoli au niveau du nouveau province, que ça s'appelle la place de l'Europe. Ça va être détruit et les personnes vont habiter à la cité des électriciens. Radio Plus,
Radio Plus. Qu'en pensez-vous ?
Ce que je constate, c'est que d'abord, il y a des gens qui tiennent à leur patrimoine. On les entend en parler. Donc c'est assez positif comme réponse. C'est assez positif. Bon, il y a des erreurs qui sont commises parce qu'il y a peut-être encore besoin d'un peu plus de communication. Il y aura effectivement des logements dans la cité. Ce ne sont qu'une dizaine de logements. Une partie sera consacrée au centre d'interprétation que j'évoquais tout à l'heure. L'autre partie sera gérée par Maisons et Cités. Et donc, ce sont 9 logements qui seront recréés sur le site. Alors maintenant, en ce qui concerne l'entretien de cette cité, si on se dit que les choses vont être saccagées à peine terminées, on ne fait plus rien. Donc moi, je suis absolument persuadé que ce lieu va très bien vivre. On a évoqué la restauration, ça va devenir un lieu de vie, ça ne va pas être fermé, ça va être ouvert à tous. Les gens qui se promènent pourront la traverser, pourront aller y passer un moment. Donc c'est une cité qui sera ouverte sur le quartier et sur la ville. Donc c'est un atout supplémentaire pour cette ville de Bruay qui en compte d'autres. Au niveau du patrimoine, nous avons le stade parc, la piscine, le stade qui date de 1936. Mais sur la partie minière, on sent bien dans les remarques qui sont formulées par les personnes que vous avez interviewées, qu'il y a quand même cette notion de patrimoine qui est importante pour eux. On ne peut pas tout détruire. Il s'agit bien d'avoir chez nous des traces de notre histoire. C'est important, surtout pour vous les plus jeunes.
Est-ce que vous pouvez nous dire quand seront terminés les travaux à la Cité des électriciens ?
Alors, dans l'état actuel du projet, nous espérons que l'ensemble des dispositifs leur installation pourra être terminée cet été. On envisage donc une ouverture de la cité au public qui devrait se dérouler au mois de septembre. Mais avant le mois de septembre, il y aura un certain nombre d'événements, notamment les rendez-vous au jardin qui vont se dérouler dans la cité. Et puis il y aura dans quelques temps, alors j'ai pas la date en tête, mais on peut retrouver ça dans le magazine de la communauté d'agglomération, il y aura aussi dans la cité un mapping, donc projection vidéo sur les bâtiments de la cité.
On remercie Monsieur Deleval pour son interview et maintenant on écoute Respire de Miguel 3D. Radio Marmottan, les élèves de la radio.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas, c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.
Deuxième sujet, l'école, et sans plus attendre, je laisse la parole à Noémie.
Nous allons écouter Madame Stéphanie Robert qui va nous raconter ses souvenirs d'école.
Bonjour Stéphanie, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Bonjour Clément, je m'appelle Stéphanie, j'ai 32 ans. Je suis la maman de Noémie qui est dans ta classe, dans l'école élémentaire Marmottan à Bruy-la-Buissière.
Comment était l'école à votre époque ?
Pour te dire simple, Romain, l'école à mon époque est à peu près la même que toi maintenant. Il n'y a pas beaucoup de changements.
Est-ce que les professeurs sont les mêmes que maintenant ?
Oui et non, parce que moi j'ai connu un directeur dans mon école qui était très à l'ancienne. Il était sévère, mais savait recadrer les élèves et on était bien content de l'avoir.
Est-ce que à votre époque, les notes ont changé ?
Pour ma part, oui, les notes, ça a changé parce qu'avant, nous étions notés sur 10, sur 20, tandis que maintenant, vous, on voit maintenant, c'est des notes avec des lettres, donc A, B, C, D, jusque F.
C'est quoi demi-pensionnaire et externe ?
Alors, comme vous allez bientôt faire votre entrée en sixième, demi-pensionnaire, c'est quelqu'un qui mange à la cantine et externe, c'est celui qui peut sortir du collège.
Est-ce que les sports ont changé ?
Non, je pense pas que les sports aient changé. Il y a toujours eu de la course à pied, de la piscine, du vélo et tout sport. Voilà.
Maintenant, nous allons écouter Laurence qui va nous raconter son souvenir de l'école Marmottan.
Bonjour Laurence, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Alors, je m'appelle Laurence, j'ai 32 ans, j'ai trois petites filles et j'habite à Bruay.
Est-ce que à votre époque, les notes ont changé ?
Oui, avant on avait des notes sur un classement et on avait des notes dans chaque matière et ça nous donnait une moyenne. Par exemple, 12 sur 20, 15 sur 20, on avait une note pour tout le trimestre.
Est-ce que les professeurs sont les mêmes que maintenant ?
Ici, à Marmottan, ils ont tous changé, sauf Madame Repnik qui est toujours là. Sinon, ils ont tous changé.
Comment était l'école à votre époque ?
Elle ressemblait, j'étais à la même école que vous, donc elle ressemblait beaucoup à ça maintenant. Il n'y a pas beaucoup de changements, pas beaucoup de décorations au niveau des murs. Mais il n'y a rien de trop changé.
Est-ce que les sports ont changé ?
Nous, on faisait plutôt de la danse. C'était un peu ce que madame elle voulait nous faire faire. C'était pas obligatoire avant le sport. C'est si on était sage et si madame elle avait envie de nous faire faire sport.
Qu'est-ce qui a changé par rapport à aujourd'hui ?
Les horaires de l'école. Avant, nous, on commençait l'école au matin à 9h. On termine à midi, on reprenait à 14h et on finissait à 17h. Et on n'avait pas l'école le mercredi. On était avec notre madame jusqu'à 17h. On n'allait pas au NAP, on n'allait pas en APC, on était avec notre madame.
Et vous aviez dit aussi tout à l'heure que vous n'aviez pas non plus d'auxiliaire de vie scolaire.
Non. Madame tenait sa classe toute seule. Elle était toute seule à gérer tous ses élèves. Il n'y avait que elle pour s'occuper de nous.
Vous étiez combien par classe ?
Une trentaine.
Aujourd'hui, vous êtes combien dans la classe ?
26.
Qu'est-ce qui vous revient en tête comme souvenir quand vous voyez un peu tous ces objets devant vous?
Je me rappelle de ma maîtresse. Je me souviens surtout de ça.
Alors, vous pouvez le décrire?
C'est une craie. C'est une craie qui est insérée dans un... Je sais pas, non...
Une sorte de porte-mine.
Ouais, c'est un porte-mine en fer. Et la craie, elle est serrée par une bague. Ça nous servait à... Ça servait à écrire sur l'ardoise, il fallait pas le perdre surtout. Parce qu'on n'en avait qu'un début d'année, il fallait le rendre à madame à la fin de l'année. On n'avait pas de créé comme vous, on avait juste ça.
Et quel souvenir vous avez de votre maîtresse alors ?
Elle était jolie, elle avait des grands talons aiguilles et elle sentait super bon, elle était très gentille.
Écoutons maintenant un fleurilège des parents qui vont nous expliquer leurs souvenirs de la classe de monsieur le maire.
Bonjour, alors je m'appelle Nathalie Ruguet. Je suis maman d'un garçon qui va à l'école Marmottan.
Bonjour, madame Lecaillé, maman de Léa Lecaillé, élève de CM2 école Marmottan.
Bonjour, Benoît Maquet, papa de Nicolas Maquet. J'ai pas été à l'école Marmottan, donc je viens voir ce qui s'y passe.
Bonjour, Fournier Dylan, frère de Kimberly Fournier. Bon, j'étais à l'école avant, il y a 10 ans.
Avez-vous fréquenté l'école Marmottan ? Sinon, dans quelle école étiez-vous ?
Non, j'ai pas fréquenté l'école Marmottan.
Non, je n'ai pas fréquenté l'école Marmottan. Dans ma jeunesse, j'ai fait énormément d'écoles, primaire, secondaire, internat. Donc non, je n'ai pas fréquenté l'école Marmottan.
Pour ma part, non plus, école Jean Jaurès, Bruay-la-Bussière, où j'ai fait élémentaire et maternelle.
Moi non plus, j'étais à l'école Léopold Sédar Senghor à Chicourt.
Dans un premier temps, j'étais à l'école Basly, au 3, puis dans un second temps, à l'école Marmottan.
Est-ce que les professeurs étaient plus stricts qu'aujourd'hui ?
C'est pas qu'ils étaient plus stricts, les professeurs, c'est qu'on avait plus peur d'eux. Enfin, de mon point de vue de sentiment maintenant. J'ai l'impression que le jeune de maintenant a moins peur des grandes personnes et de la fonction qu'ils peuvent pratiquer.
Autre éducation, autre génération aussi, qui a fait beaucoup. Donc oui, avant, les professeurs étaient plus stricts. Mais c'est vrai qu'on ne le relevait pas et on restait un peu plus droit, un peu plus carré.
Oui, ils étaient plus stricts que maintenant. Ils avaient peur, ils nous faisaient peur et enfin, c'était pour notre bien.
Non, pas du tout. À part une professeure à Marmottan qu'il y a 10 ans, c'était en CP.
Quels étaient vos jeux pendant la récréation ?
On jouait beaucoup à la corde. La corde à sauter, la corde où on se mettait à trois et au milieu on faisait les trucs à l'élastique, là, l'élastique, ouais, la corde à sauter, l'élastique, le jeu de billes. On jouait aussi souvent aux billes, au galop. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore comme jeu ? La marelle. On jouait beaucoup à la marelle. On faisait aussi beaucoup les étiquettes, là, les panini. Tout ce qui était les candies, le football pour les garçons. On avait aussi tout ce qui était qui sortait à la mode à notre époque. Mais bon, ça n'a pas beaucoup changé, hein, les jeux de cours.
Des courses, petites compétitions entre copains et copines, les jeux de l'élastique. Ouais, vraiment un peu comme maintenant, on va dire. C'est vrai que ça n'a pas beaucoup changé.
Les mêmes que maintenant.
Avez-vous beaucoup de devoirs après l'école ?
Énormément, trop d'ailleurs à notre époque. Mais ça nous apprenait à mieux écrire, à comprendre les différentes sortes de présent, de passé, de conjugaison, tout ça. Donc c'était bien les devoirs.
Oui, moi aussi, beaucoup de devoirs, beaucoup de leçons. Écriture, lecture, conjugaison, mathématiques. Mais pareil, c'était pour notre bien, donc on faisait et on ne disait rien. C'était pour l'apprentissage.
De la CP au CE2, il y avait beaucoup de devoirs, mais à partir de CM1, tout a baissé, jusqu'à la CM2.
Est-ce que tout le monde était habillé de la même façon ?
Pas à mon époque.
Bon, oui, c'est comme maintenant, ça n'a pas changé. Chacun son style, pas de différence.
Non, on est habillé un peu comme vous maintenant.
Pourquoi il y avait-il une séparation garçon-fille ?
Je sais pas du tout, parce que j'ai pas connu la séparation fille-garçon, mais à mon avis c'était encore une autre génération, la génération de vos arrière-grands-parents, où là, on mélangeait pas les filles et les garçons, c'était comme ça.
J'ai pas connu non plus, on était tous mélangés dans la même cour.
Est-ce que vous fréquentiez la cantine ? Est-ce que c'était bon ?
Non, pas du tout, c'était... Bah, y avait quelques repas que c'était bon, mais pas toujours, surtout le vendredi.
Non, j'ai jamais mangé à la cantine comme j'habitais à deux pas de l'école. Donc non, j'ai pas connu la cantine.
Je n'aimais pas du tout la cantine non plus, surtout vendredi.
Est-ce que les règles d'hygiène étaient les mêmes ?
Non, même niveau des parents, enfin les règles d'hygiène, le lavage de dents n'était pas aussi important. D'ailleurs, on ne connaissait pas les orthodontistes. C'est pour ça qu'on avait souvent une dentition pas très parfaite, comme vous pouvez l'avoir maintenant. Et puis non. On se lavait pas les mains, on nous disait pas en sortant des toilettes de se laver les mains. Il y avait beaucoup de lacunes par rapport à ça.
C'était pas les mêmes règles que maintenant.
Enfin, écoutons Monsieur le maire qui va vous présenter ses souvenirs d'enfance.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Alors, donc, je m'appelle Laurent le maire, donc je suis enseignant ici à l'école Marmottan depuis 1996. Avant, j'ai voyagé un petit peu dans différentes villes. Donc, je suis arrivé dans l'éducation nationale en venant de l'éducation populaire. C'est-à-dire que j'ai commencé comme animateur. Et c'est le fait de travailler avec des enfants qui m'a donné envie de devenir enseignant. Je continue encore l'éducation populaire puisque je dirige encore les centres de loisirs et je fais de la formation BAFA, BAFD.
Les pochettes et les cahiers étaient les mêmes ?
Alors, des pochettes, il n'y en avait pas beaucoup. Très clairement, quand j'étais à votre place en école primaire, c'était plutôt des cahiers. Et avec évidemment le sacro-saint cahier du jour que vous n'avez pas, que je ne mets pas en place, tout simplement parce que dès que j'ai opté pour travailler dans le CM2, j'ai décidé de préparer mes élèves. Et donc là, vous-même, pour l'entrée en sixième, sachant que évidemment en sixième, vous aurez des cahiers et des classeurs par matière. Et donc, j'ai opté pour une préparation dès le CM2 à ce travail en sixième pour éviter que ce passage de l'école primaire au collège ne soit trop difficile.
Est-ce que les sports ont changé ?
Ah oui, les sports pratiqués à l'école primaire ont changé. On a beaucoup évolué puisque à mon époque, les deux sports principaux qui étaient pratiqués à l'école étaient le football et le basket. Parce que d'abord, d'autres clubs de sport ou d'autres disciplines n'étaient pas présentes dans les villes. Donc, c'était pas du tout à la mode. Donc oui, ça a bien évolué. Les piscines étaient essentiellement découvertes. Donc, à l'école, on n'allait pas à la piscine. Donc oui, ça a bien évolué. Hein. Vous voyez que vous pratiquez l'athlétisme, le rugby, le handball, on était faire du ski. Donc évidemment, on a énormément évolué là-dessus.
Est-ce que vous avez des bons points et des tampons à votre temps d'école ?
Alors oui, il y avait des bons points, des images, l'ensemble de ce qu'on peut retrouver quand même ici dans certaines petites classes. Alors, ce qu'on appelle les petites classes, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est parce que les élèves sont en taille plus petite, au CP et au CE1. Donc oui, c'était présent également chez nous au CP et CE1, et ça disparaissait dès qu'on entrait ce qu'on pourrait maintenant appeler le cycle 3, hein, c'est-à-dire le CM1, le CM2 et la 6e qui fait partie du cycle 3.
Y avait-il plus ou moins de sorties scolaires dans votre temps ?
Alors, quand j'étais élève en primaire, il y avait moins de sorties scolaires. Alors, les raisons, elles sont multiples. Hein. La première, c'est que c'était pas du tout dans la volonté pédagogique et éducative d'aller trop sur le terrain. Le savoir à transmettre aux élèves devait se faire dans la classe. Et puis aussi, ben, il y avait peut-être que les communes avaient moins de moyens financiers pour financer ces sorties pédagogiques, puisque ces sorties pédagogiques ont un coût. Elles sont soit financées par la commune, soit par l'école avec la coopérative. Donc c'était aussi des choses qui étaient difficiles à mettre en place. Donc c'est aussi pour ça qu'il y en avait moins.
Est-ce que vous allez à la cantine ?
Alors là aussi, hein, on a un peu évolué, mais ça revient à des questions qui risquent de venir après. C'est l'organisation de la cellule familiale. À mon époque, en étant enfant, il y avait moins de mamans qui travaillaient parce que, encore une fois, c'était pas dans l'image qu'on se donnait de la femme. La femme devait élever les enfants plutôt à la maison, et donc forcément. Et ben, il y avait toujours quelqu'un pour que les enfants puissent rentrer manger le midi. Et donc, il y avait peu de cantines. Il fallait vraiment aller dans les grandes villes pour trouver des cantines pour les élèves de l'école primaire. Il y avait des cantines pour le collège. Donc, dès qu'on a fréquenté le secondaire et le lycée, il y avait des cantines. Mais à l'école primaire, non. Il n'y avait pas de cantine à l'école où j'étais. Donc, je ne fréquentais pas la cantine.
Avez-vous fréquenté l'école Marmottan ? Sinon, dans quelle école étiez-vous ?
Alors non, je n'ai pas fréquenté en tant qu'élève l'école Marmottan. J'étais dans une école similaire à ici. Hein. J'étais à l'école de Neu, de Calandricoire. Donc c'était une cité minière également, puisque mon propre père était mineur. Donc c'était une cité minière qui ressemblait très fortement au quartier du Nouveau Monde avant sa réhabilitation. Donc c'était une école qui ressemblait très fortement à l'école Marmottan.
Est-ce que vous utilisez une plume pour écrire avant ?
Non, je n'ai pas utilisé de plume. Il y avait déjà la mise en place du stylo bic qui était évidemment plus économique et plus facile de manipulation, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. Alors, c'est la façon de noter qui a changé. Quand j'étais à l'école primaire, c'était évidemment des notes sur des compositions. Donc, en fait, c'était des contrôles qui étaient soit mensuels, soit trimestriels. Donc, voilà, on vérifiait un petit peu ce qu'on avait retenu ou ce qu'on avait compris des apprentissages auxquels on avait participé, ou plutôt subi, puisqu'on verra aussi que ça a beaucoup évolué sur la façon de faire classe. Voilà, c'était des notes plutôt qui étaient basées sur une évaluation à un instant T. Maintenant, vous êtes plutôt évalué, vous, sur des compétences, c'est-à-dire que on évalue un petit peu ce que vous savez faire, mais aussi un petit peu sur votre savoir-être et votre savoir-faire. Hein, en plus de ce que vous avez retenu de la matière enseignée.
Est-ce que tout le monde était habillé de la même façon ?
Non. Alors il y avait, on nous demandait de porter parfois, surtout au CP et en maternelle, des tabliers, mais c'était plus dans un souci, on va dire, d'hygiène vestimentaire, pour éviter évidemment de tacher les vêtements. Donc c'était plutôt dans ce cadre-là qu'on avait des tabliers. Mais après, la tenue vestimentaire, non, n'était pas imposée.
Quels étaient vos jeux pendant la récréation ?
Des jeux identiques à ce qui se fait maintenant, hein, c'est-à-dire du football et puis de la taquinerie, de la bagarre avec les copains. Hein, dans ce cadre-là, j'étais un élève tout à fait normal.
Avez-vous beaucoup de devoirs après l'école ?
On en avait plus. Alors, on en avait plus parce que c'était une volonté éducative également. Hein. L'éducation nationale demandait aux enseignants de favoriser ce travail à la maison, de l'amplifier pour donner le goût de l'effort aux élèves. Actuellement, évidemment, c'est plus trop ce que demande l'éducation nationale. Au contraire, l'éducation nationale demande que l'ensemble des apprentissages du travail se fait à l'école, mais ça se limite bien à une demande à l'école, puisque dès que vous entrez au secondaire, et si vous avez des frères ou des sœurs au collège, vous savez que le travail à faire à la maison est assez conséquent, soit par les leçons à apprendre, soit par les exercices à faire ou les DM. Le principal du collège Camus est venu vous voir et vous l'a dit, pour réussir au collège, il faut au minimum travailler entre 45 minutes et une heure par jour à la maison. Alors, demi-pensionnaire veut tout simplement dire que vous mangez à la cantine, et externe, non, que vous pouvez retourner chez vous à midi.
Est-ce que à votre époque, dans votre classe, il y avait un élève de service ?
Oui, ça arrivait en fonction des enseignants qui étaient des élèves de service, c'est-à-dire que, alors tout simplement, c'était une façon de responsabiliser la personne qui était en charge pendant toute la journée de la distribution des feuilles, de la distribution des outils. Hein. Alors, quand j'en dis outils, évidemment, c'est le compost et l'équerre qui étaient ramassés après, ou de la colle. Voilà, c'était une façon de responsabiliser les élèves.
Et maintenant, je vous propose d'écouter la chanson de France Gall, Sacré Charlemagne.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne, de nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ce fils de Pépin le Bref nous donne beaucoup d'ennuis, et nous avons sans grief contre lui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle? De mathématiques,
que de
travail,
sacré Charlemagne. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie.
Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie.
Oh, oh, sacré Charlemagne, au lieu de nous ennuyer avec la géographie,
au lieu de nous ennuyer.
D'aller chaque jour en classe, il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées.
Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées.
Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.
Participe passé,
4 et 4 font 8,
4 et 4 font 8.
Leçon de français,
français,
de mathématiques.
Mathématiques,
que de
travail,
sacré Charlemagne. Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que des jeudis.
Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que des jeudis.
Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh.
Vous êtes toujours dans l'émission Radio Marmottan avec les élèves de l'école Marmottan de Bruay-la-Bussière. Troisième et dernier sujet, la télévision. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Diego et Alexis.
Bonjour, je m'appelle Diego, nous allons présenter la télévision de sa création à maintenant.
Il y a quelques jours, nous nous sommes posé des questions sur les débuts de la télévision. Voici les réponses. Tout d'abord, nous allons vous faire écouter le reportage de la première expérience de la télévision française.
Officiellement, la première émission de télévision en France eut lieu le 26 avril 1935, mais elle fut précédée d'un certain nombre d'expériences privées comme celle-ci à l'école d'électricité à Malakoff en 1931. Également au Havre, essai d'un premier équipement la même année avec un premier télécinéma bien rudimentaire. L'inventeur de ce matériel était un garçon de 20 ans, Henri de France, et la speakerine s'appelait Suzy Vinclair, elle se souvient.
J'étais la première speakerine officielle de la radiovision PTT, et on me qualifiait d'animatrice, parce que mon rôle était d'animer les émissions en présentant par des textes que j'écrivais moi-même les artistes dont je vantais à l'avance toutes les qualités qu'ils allaient produire naturellement pour nos spectateurs.
Et le 26 avril 1935, première démonstration officielle au PTT rue de Grenelle, Béatrice Bretti était la seule comédienne sur le plateau et elle se souvient de cette première expérience.
On m'avait prié de m'asseoir sur une chaise qui avait été très exactement cadrée. On m'avait bien recommandé de ne pas faire des gestes trop véhéments, selon mon habitude, de manière à ne pas déborder du petit écran. Et on avait donné les lumières. Ah, alors là, mon martyre commença. Je peux affirmer que j'ai eu véritablement un avant-goût de l'enfer. J'avais l'impression de fumer, j'avais l'impression que ma cervelle allait se mettre à bouillir et mes yeux me brûlaient au point de rendre illisible le texte qui avait été préparé.
Malgré cela, la presse s'empara de l'événement. De nombreux articles furent publiés avec le portrait de René Barthélémy, l'inventeur du matériel. L'un des articles était signé Henri Kubik. Au mois de novembre, un émetteur était installé à la Tour Eiffel. Pour envoyer des images en 180 lignes, il fallut d'abord hisser le câble jusqu'au sommet de la tour. Et la presse filmée s'empara de l'événement elle aussi. Voici ce premier reportage sur la télévision.
À différentes reprises, le poste des PTT a émis non seulement des sons, mais encore des images qui ont été reçues dans plusieurs salles disséminées dans Paris.
Et maintenant, chers auditeurs et spectateurs, nous vous invitons au voyage. Et ce plaisir, qui il y a quelques années encore était réservé à certains favorisés, a été en quelque sorte mis à la portée de tous par le miracle de la vie moderne.
Et voici reconstitué en 180 lignes les émissions de la télévision des PTT en 1936.
Comme vient de dire Alexis, la première chaîne de télévision était donc Radio TT Vision, qui a duré 2 ans, de 1935 à 1937, et qui avait donc posé le premier émetteur sur la Tour Eiffel.
En 1940, lors de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands prennent le contrôle de la radio, de la télévision française. Ils créent alors en 1943 Fernsehsender Paris, et la première émission réalisée depuis des studios rue Gognac G.
En octobre 1944, Paris est libéré et les émissions de télévision reprennent leur cours normal. En 1949, la radiodiffusion télévision française est créée. Elle deviendra l'ORTF en 1964.
Entre-temps, un premier émetteur de télévision apparaît en province en 1950 et c'est dans la région de à Lille.
La deuxième chaîne de l'ORTF apparaît en janvier 1972 et la première chaîne en décembre 1972. Cette dernière ne diffuse que des programmes régionaux et seulement de 19h à 22h.
Ce n'était pas comme aujourd'hui, les programmes de télévision s'arrêtaient après une certaine heure. Et ensuite, il n'y avait plus qu'une mire. C'est-à-dire une image fixe, voire rien du tout.
Ce n'est qu'en 1974 que l'ORTF disparaît et que les chaînes telles que nous les connaissons aujourd'hui apparaissent, soit TF1, Antenne 2 et R3, n'est-ce pas Lucas ?
Oui, tout à fait. On vous a même retrouvé le premier générique de TF1, écoutons-le.
En 1984 apparaît une quatrième chaîne, Canal+. C'est la première chaîne privée française qui est payante et cryptée.
Le 20 février 1986 à 20h30 est lancée la 5. Elle disparaîtra en 1992. D'ailleurs, je vous propose d'entendre le dernier moment de la 5.
Voilà, dans quelques secondes, dans quelques dizaines de secondes, la 5 va mourir. Je vous rappelle que le combat ne fait que recommencer et que dans les kiosques, dès la semaine prochaine, vous trouverez 5+, qui sera l'organe de liaison avec vous, les téléspectateurs. Patrice.
Oui, au début de cette émission, au début de cette veillée qui nous a rassemblés, qui vous a rassemblés, j'ai parlé de tristesse et de fierté. À propos de fierté, je voudrais simplement, avant que cette chaîne ne meure, rendre un hommage particulier au sang-froid, à la dignité, au sens des responsabilités et au panache, on l'a vu ce soir, avec lesquels l'ensemble du personnel et la rédaction, bien sûr, ont travaillé depuis la mi-décembre, depuis que les difficultés que vous connaissez ont commencé. Je voulais rendre cet hommage, je crois que c'était utile, à l'ensemble du personnel. Merci, bonsoir.
5, 4, 3, 2, 1, 2.
Au revoir.
À bientôt.
À bientôt.
Toujours en février 1986, une sixième chaîne apparaît, mais ce n'est pas la sixième, c'est la 7 qui est en réalité l'ancêtre d'RT, la chaîne franco-allemande.
C'est en mars 1986 que la sixième chaîne apparaît. Elle s'appelle TV6 et c'est la première chaîne musicale française. Elle deviendra M6 en 1987 et écoutons donc ce reportage.
Le PAF, le paysage audiovisuel français, change de visage. Nous saluons ce matin la naissance d'une petite sœur privée, M6, une télé sous la conduite de la Lyonnaise des Eaux et de la CLT, installée sur les cendres de TV6, la fin d'une époque et le début d'une autre. Agnès Poirier.
TV6 vient de mourir, il est minuit. Une soirée d'adieu en direct et en musique. La dernière séance de la chaîne musicale française.
On se retrouvera.
TV6 est morte, voici M6. M pour Métropole, mise en place par la CLT et la Lyonnaise des Eaux. Ultime préparatif, Eurache. 11h15 ce matin, on s'active jusqu'à la dernière minute. Top, magnéto.
Attention, bientôt l'antenne.
Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Comme vous voyez, nous ne vous cachons rien des derniers préparatifs avant le démarrage dans quelques instants. Vous savez que vous êtes déjà 10 millions à nous avoir rejoints dès ce matin pour le baptême de la chaîne, mais que notre ambition, c'est que très rapidement, vous soyez 3 fois plus nombreux.
Au programme de M6, des séries brésiliennes et américaines, Cagné et Lasset, Clair de Lune, du cinéma, un film tous les soirs, des jeux, de l'information et bien sûr, avant toute chose, de la musique. Jean Drucker s'est engagé sur la quantité. Il y aura au moins 30% de musique sur M6.
En 1987, c'est un moment important puisque la première chaîne publique TF1 devient privée et appartient désormais à Bouygues.
En 1992, les speakerines disparaissent de TF1. Parmi les speakerines célèbres, il y a eu Denis Fabre ou encore Elvin Leclerc.
En 2001, la première émission de télé-réalité apparaît. Il s'agit de Love Story qui est diffusé sur M6 et animé par Benjamin Castaldi. Parmi les célébrités dans Love Story, il y a eu Loana.
Enfin, en
2005, c'est un grand changement pour la télévision française. La télévision numérique terrestre, la TNT, apparaît avec 8 nouvelles chaînes d'un coup.
Pour terminer, je vous propose d'entendre 2 publicités d'époque sur la télévision en couleur et sur un appareil qui a disparu, le magnétoscope.
Ils ont un téléviseur couleur Philips depuis plus de 2 ans. Aujourd'hui, qu'en pensent-ils ?
Ils me l'ont réglé quand ils sont venus la première fois, il n'y a plus jamais eu de problème.
Je suis enchanté de la télévision couleur Philips. Je n'ai pas eu la moindre panne, c'est une merveille.
C'est un Philips.
Ça, on tourne un bouton, puis voilà, on a la mer, on a tout ce qu'on veut.
Très satisfaite.
J'ai eu un très bon service après-vente.
Exactement du cinéma en couleur.
Mais c'est la vie, la couleur.
Philips, les téléviseurs couleur les plus vendus en Europe.
Avec le magnétoscope Philips, vibrez, l'image ne vibre pas. Guidé par le rail électronique Philips, l'image reste stable, en arrêt sur l'image, en accéléré arrière, en accéléré avant, comme au ralenti. Magnétoscope Philips à cassette réversible. Une image parfaitement stable.
Pendant toute l'émission, nous nous sommes remémorés un tas de souvenirs sur la cité des électriciens, l'école et la télévision. On se retrouve bientôt sur Radio Plus.
Radio Marmontin,
les élèves de la radio.